La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Il est chimiste et ses recherches portent sur les mécanismes biologiques du cancer. Raphaël Rodriguez, à peine 40 ans et déjà un parcours impressionnant. Ses travaux ont été récompensés par de nombreux prix. Le tétraédron, la plus haute distinction mondiale en chimie, vient de lui être décerné. Et nous allons avoir le plaisir de faire sa connaissance aujourd'hui. Raphaël Rodriguez est notre invité. Il va nous raconter son parcours, nous expliquer ses recherches en cancérologie et les nouvelles voies thérapeutiques qu'elle laisse entrevoir. Pour lui adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Daniel.
À la une de la science aujourd'hui, une drôle d'étude sur les capacités de camouflage des sèches.
Oui, un travail très novateur en neurobiologie. Des chercheurs ont tenté d'entrer dans le cerveau de ces animaux en observant uniquement leur peau. On vous explique tout ça dans un instant.
Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique Santé polémique du docteur Dominique Dupagne. Il s'intéressera aujourd'hui à une fausse information qui circule au sujet de la stérilisation des sondes d'échographie. Voilà pour le programme de cette tête au carré réalisée par Benjamin Riquet et préparé par Lucie Serfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Raphaël Rodriguez.
Bonjour.
Vous êtes chimiste au CNRS et à l'Institut Curie. Vous étudiez les mécanismes biologiques à l'œuvre dans les cellules cancéreuses et plus particulièrement dans les cellules souches cancéreuses. Ce sont des cellules qu'on commence lentement, progressivement à découvrir et qui ont un rôle primordial dans le cancer, dans les cancers.
Alors comme vous dites, dans les cancers, puisque le cancer est une maladie complexe qui d'un tissu à l'autre varie considérablement. Et donc les cellules cancéreuses de souche, il faut faire attention à la sémantique qui pourrait être controversée dans certains pays, puisque les cellules cancéreuses de souche peuvent être aussi appelées cellules mésenchymateuses ou alors des cellules persistantes au traitement. Donc il s'agit de cellules qui ont la capacité de se détacher des tumeurs primaires, de migrer dans l'organisme et de générer ce que l'on connaît sous le nom de métastases, c'est-à-dire des tumeurs secondaires.
Mmh. Elles sont impliquées dans la croissance des tumeurs, dans les métastases et dans le processus de rechute aussi des cancers. On comprend toute l'importance de les identifier, de comprendre comment elles fonctionnent, éventuellement de les cibler, tout particulièrement ces cellules.
Exactement. Alors, il s'agit d'une population qui reste faible, en tout cas dans le cadre des tumeurs primaires, si on exclut le mélanome ou des tumeurs solides, d'où la difficulté de pouvoir les identifier et de pouvoir les isoler et de pouvoir les cultiver, je dirais in vitro, afin de pouvoir identifier dans ces cellules des points faibles qui nous permettent éventuellement de développer des thérapies adaptées. Ouais. Et ce sont les cellules donc qui aboutissent à des rechutes parce qu'elles ne sont pas sensibles au traitement conventionnel, si bien que lorsque vous traitez un patient avec les chimiothérapies conventionnelles, il va y avoir une régression de la masse tumorale en un premier temps. La tumeur va s'enrichir en cellules qui sont beaucoup plus agressives et donc résistantes, et ça devient beaucoup plus compliqué ensuite.
Nous allons voir dans le dossier de cette tête au carré en quoi vos recherches sur le cancer sont prometteuses et pourquoi elles vous valent les honneurs de la communauté scientifique internationale. Et les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. Axel Villard, à la une aujourd'hui, on tente de lire les pensées des sèches à travers leur peau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est l'histoire, Daniel, d'une étude très originale menée par le Centre de Recherche sur le cerveau de l'Institut Max Planck à Francfort. Des chercheurs ont filmé le camouflage de plusieurs sèches tout au long de leur vie pour tenter de comprendre les mécanismes neuronaux qui leur permettent de changer d'apparence à loisir. Comment recréer une texture pixel par pixel? Comment savoir ce qui se passe sur sa propre peau quand on est une sèche? Ce sont les questions que vous êtes posé, Gilles Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez ces recherches et vous êtes neurobiologiste et directeur de ce centre de recherche à Francfort. Alors pourquoi avoir choisi cet animal en particulier pour étudier le fonctionnement des réseaux de neurones dans le vivant? Parce que les questions que vous vous posez dans cette étude sont très larges au final.
Oui, en effet. À vrai dire, on travaille dans mon labo sur pas mal de systèmes modèles, dont la sèche. Et la raison pour laquelle on a choisi cet animal est que on avait dans l'idée d'exploiter ce système de camouflage, de contrôle des pixels par le système nerveux, pour enregistrer un très très grand nombre de données, c'est-à-dire enregistrer de manière indirecte l'activité de très grandes populations de neurones, de dizaines, ou peut-être dans l'année qui vient, de centaines de milliers de neurones simultanément, ce qu'on ne peut pas faire dans tous les autres systèmes modèles qu'on utilise en neurobiologie.
Donc la seule chose que vous faites, c'est de filmer ces animaux.
La seule chose, Axel, comme oui, vous y allez.
D'une certaine manière, on commence par ça en tout cas. On commence par des films à 60 images par seconde, à haute résolution. Et après, on analyse ces données de façon à extraire des aspects, des covariations, si vous voulez, de modulation de ces chromates, de ces pixels, d'extraire une information suffisante pour reconstruire la structure ou une hypothèse au sujet de la structure du système nerveux qui les contrôle.
Mais Gilles Laurent, si je comprends bien, en fait, vous avez sur le corps de cette sèche, sur son dos, à chaque fois qu'un point, un pixel s'allume, vous avez une information sur un neurone de son système nerveux qui s'est activé. Donc vous avez une sorte d'image cérébrale sur le dos de cette sèche, c'est comme ça qu'il faut le voir ?
C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est à peu près ça, dans la mesure où chaque pixel, qui est une cellule qui s'appelle un chromatophore, qui a des pigments à l'intérieur, est contrôlé par un petit groupe de muscles spécifiques à cette cellule, qui eux-mêmes sont contrôlés par un motoneurone. Donc chaque fois que le diamètre de ce pixel change, on a une image indirecte de l'activité du neurone qui le contrôle. Et donc, en imageant des dizaines de milliers de chromatophores, de cellules pigmentaires telles que celle-ci, on a indirectement une image de l'activité neuronale qui en est la source.
Alors, le fait d'avoir tant de neurones comme ça sous la caméra, pourquoi ça vous intéresse, vous, qui êtes neurobiologiste, je le redis ?
Parce que je m'intéresse de manière générale au problème de l'encodage et du décodage de l'information par le cerveau, et en particulier par la dynamique des réseaux de neurones. Et pour arriver à une compréhension des systèmes et de l'importance de la dynamique, on a besoin de big data, d'ensemble de données et d'échantillonnages denses et à très grande échelle. Et donc c'est l'idée.
Alors qu'est-ce que vous leur faites faire à ces sèches pour qu'elles changent de couleur sous vos caméras ? Racontez-nous un peu vos expériences.
Comment on fait rougir une sèche ?
Oui, c'est pas si facile que ça, dans la mesure où ces animaux sont très évolués d'une certaine manière et ont leur personnalité, leurs émotions, leur état d'âme, etc. La manip la plus simple, c'est la manip dans laquelle on les met dans un aquarium et on change le fond de cet aquarium. On leur présente des images avec des textures qu'on a choisies et qu'on contrôle. Donc quand tout se passe bien, c'est ce qu'on fait, on met l'animal sur une texture, par exemple un truc qui ressemble à une image de sable ou de gravier, etc. Au bout d'une minute ou quoi, l'animal se calme, se pose là-dessus en imitant cette structure statistique. Au bout de 5 minutes, quand on a suffisamment de films, on change cette image. L'animal est intrigué par ce changement, nage pendant une minute et puis en plus se repose sur une autre image. Et comme ça, au fur et à mesure du film, on peut obtenir des données sur des dizaines, des centaines d'images différentes.
Donc c'est pas immédiat, il faut quand même un petit temps pour que l'image change sur la peau de l'animal alors.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que l'animal, quand il se décide à se cacher se camoufler dans un fond particulier, typiquement nage au-dessus de la surface sur laquelle il va se poser et fait ce qu'on appelle une estimation statistique de la structure de cette image. Il ne va pas se poser et faire une imitation parfaite pixel par pixel. Par exemple, si vous le posiez sur un livre, vous ne pourriez pas lire le livre sur la peau de cet animal. Il en fait une imitation statistique. C'est un peu comme si je vous demandais de fermer vos yeux et de décrire ce que vous voyez à l'intérieur de vous, autour de vous. Vous auriez une très bonne idée de ce qu'il y a, mais pas dans le détail. Vous seriez capable de faire une description statistique de tout ce qu'il y a autour de vous, mais certainement pas pixel par pixel. D'une certaine manière, c'est ce que font ces animaux-là. Et ça nous permet donc d'étudier la manière dont le cerveau fait une représentation statistique d'une scène visuelle.
Mais Gilles Laurent, vous parlez d'imitation statistique et de réseau de neurones. Ça fait fortement penser à l'intelligence artificielle. Est-ce que vos recherches peuvent intéresser des chercheurs dans ce domaine ?
Tout à fait, dans la mesure où ce problème d'extraire des données globales statistiques sur une image, et des textures en particulier, est un problème très complexe et intéressant pour ce qui s'appelle machine vision, c'est-à-dire les domaines de l'intelligence artificielle qui s'occupe de la vision et des images. Dans la mesure où faire ce que fait une sèche, ou entraîner un ordinateur ou l'intelligence artificielle à refaire ce que fait une sèche requiert des centaines de milliers d'images et de corrections avant que on puisse être en mesure d'obtenir cette imitation ou de remplir un blanc par exemple dans une image. Et ces animaux-là sont capables de le faire dès qu'ils sortent de l'œuf, c'est-à-dire que ils ont dans leur système nerveux les solutions à ces problèmes qui sont très complexes pour nous à résoudre.
Merci Gilles Laurent. Et Axel, on va mettre évidemment en lien sur la page Facebook, parce qu'on veut les voir aussi.
On peut les voir, oui, ces pixels s'allumer un par un, puisqu'une équipe de Nature est venue filmer dans votre laboratoire et on va mettre la vidéo sur la page de la Une.
Voilà, pour en savoir plus sur ces sèches pixelisées. Merci à vous Gilles Laurent et Axel, à demain.
À demain.
Avec grand plaisir.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, ces chiffres effrayants dévoilés par le WWF aujourd'hui, selon la Fondation, les populations de vertébrés sauvages de la planète ont chuté de 60% en seulement 44 ans. Ne nous y trompons pas, il s'agit bien d'une chute des populations et non du nombre d'espèces. C'est donc le nombre total d'individus disparus qui est estimé ici, principalement à partir des données de la Société zoologique de Londres. Pour le directeur du WWF, il ne peut y avoir de vie humaine sur une planète totalement dépourvue de biodiversité. Le plus vieux chocolat préparé par l'homme date de 5300 ans. Des traces de cacao viennent d'être retrouvées en Équateur au fond d'un pot utilisé par une civilisation précolombienne. Les chercheurs savaient déjà que les Olmèques et les Mayas broyaient les graines du cacaoyer pour faire une boisson utilisée selon les archéologues pour des cérémonies rituelles. Cette nouvelle découverte fait reculer l'usage du cacao par l'homme de près de 1500 ans. Et pour terminer, le délai idéal entre deux grossesses serait d'un an et 9 mois. À partir des données de plus de 150 000 naissances en Colombie-Britannique, des universitaires ont estimé que c'est entre 12 et 18 mois après un accouchement qu'une nouvelle grossesse présente le moins de risques de complications pour la mère, mais également pour l'enfant. Un délai statistique et théorique, donc, qui s'allonge légèrement selon l'âge de la mère à partir de 35 ans. On s'intéresse à des recherches prometteuses sur les mécanismes chimiques et biologiques impliqués dans les cancers cet après-midi dans La Tête au Carré sur France Inter.
Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre, je pars en confetti. Vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre je pars en confetti.
C'était Vampire de l'amour, Dionysos sur France Inter.
Voilà dans la salle, et moi sur l'écran. Ce n'est pas la première fois que nous nous regardons en face, pour rire et pour pleurer, quelquefois ensemble, quelquefois à contre-temps. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet grave, douloureux, du cancer. Je viens d'apprendre le nombre de personnes qui, chaque année en France, meurent du cancer. 90 000 personnes. Savez-vous que sur ces 90 000, 30 000 pourraient être sauvées si leur mal était découvert et soigné à temps? Seulement, voilà. Notre pays n'a pas l'équipement nécessaire. Il n'y a pas assez de centres de lutte contre le cancer. Les savants cherchent, avec une patience ardente, le moyen de terrasser le terrible mal. Il faut les aider à y parvenir, le plus tôt possible. Aussi, je vous adjure d'ouvrir votre bourse en faveur des malades et des chercheurs, et de l'ouvrir largement.
La tête au carré, sur France Inter.
Nous étions en 1954, c'est la voix de l'acteur Gérard Philippe que vous entendiez. Il participait à une campagne de dons pour la recherche contre le cancer. Invité de cette tête au carré, Raphaël Rodriguez, chimiste, directeur de recherche au CNRS, chef de l'équipe chimie et biologie du cancer de l'Institut Curie. Vous allez nous raconter les recherches que vous menez pour tenter de comprendre certains mécanismes à l'œuvre dans les cancers. Mais d'abord peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre. Ça date de 1954. Il y a plus de 60 ans. Est-ce qu'on a beaucoup évolué sur le front de la lutte contre le cancer, sur les thérapies, sur la recherche? C'est vrai qu'on a l'impression qu'on en est toujours à dire il faut qu'on progresse, il faut qu'on fasse mieux. Est-ce qu'il y a déjà du mieux?
Alors, bien évidemment, je pense que beaucoup de progrès ont été faits. Déjà des progrès au niveau du dépistage du cancer qui est beaucoup plus précoce, mais aussi des progrès au niveau de la compréhension de la pathologie. Avant, le cancer était une pathologie. Maintenant, on sait qu'il existe plusieurs types et sous-types et encore sous-classes de cancers qui sont de mieux en mieux, je dirais, caractérisés, pour lesquels nous avons des biomarqueurs. Et bien entendu, au cours des décennies précédentes, nous avons été en mesure de développer de nouvelles approches thérapeutiques, que ce soit par l'utilisation de médicaments de synthèse organique, ou que ce soit par l'utilisation d'anticorps, par exemple, qui a donné lieu au prix Nobel cette année d'immunothérapie.
L'immunothérapie, on aura l'occasion d'en parler. Vous aussi, hein, vous avez une approche innovante. Alors, on est vraiment dans les outils d'étude du fonctionnement de la cellule, des mécanismes impliqués. On va en parler. Mais avant, peut-être, commençons par nous intéresser à ce que savent aujourd'hui les scientifiques du cancer, ou plutôt des cancers. Il y a plusieurs sortes de maladies, de pathologies que l'on regroupe sous ce terme de cancer?
Alors, un cancer, déjà il faut essayer de définir un petit peu ce que c'est. Un cancer, c'est la perte de la fonction de cellules qui sont censées être spécialisées dans un tissu. Non seulement ces cellules perdent leur fonction, mais en plus elles perdent leur capacité à réguler la manière dont elles prolifèrent, si bien qu'à un moment, la masse grandit et l'organe finit par perdre ses fonctions.
C'est-à-dire qu'elles se déprogramment et acquièrent cette capacité qu'elles avaient quand elles étaient bien plus jeunes de se diviser et de façon un peu erratique.
Alors si on caricature un peu, effectivement les cellules de nos tissus sont spécialisées. Vous allez avoir par exemple des cellules cérébrales, vous allez avoir des cellules hépatiques, vous allez avoir des cellules au niveau du myocarde. Toutes ces cellules, bien entendu, pour un individu donné, ont le même génome, mais tous les gènes ne sont pas exprimés dans ces cellules. Certains sont exprimés, d'autres sont réprimés. Mmh. Et c'est cette combinaison d'expression des gènes qui leur donne leur fonction. Ouais. Au cours du cancer, il va y avoir effectivement une dédifférenciation qui fait que la fonction de la cellule dans le tissu n'est plus assumée. Ouais. Et qui est souvent associée à une hyperprolifération de ces cellules.
Ouais. C'est le programme génétique qui se met à dérailler, à s'exprimer n'importe comment?
Alors on pourrait penser que c'est aléatoire et que c'est lié effectivement au hasard. Ce qui est maintenant bien accepté, je pense que les cancers ne proviennent rarement d'une seule dysfonction, parce que les cellules ont quand même des mécanismes qui leur permettent de lutter pour garder quand même un équilibre et une bonne homéostasie avec une physiologie normale. Donc les cancers sont souvent le résultat de plusieurs dysfonctions et d'une perte d'équilibre qui, additionnés les unes aux autres, font qu'il y a une perte de cette spécialisation.
L'homéostasie, c'est justement l'équilibre des paramètres. Il faut que chaque élément est un petit peu à une dose constante et que voilà la cellule conserve son intégrité et son identité. Quelles sont les différentes causes possibles qui peuvent déclenché la survenue de ces dysfonctionnements qui aboutissent au cancer?
Alors c'est compliqué, vous pouvez avoir des gènes qui dès la naissance sont dysfonctionnels pour lesquels il y aura une mutation génétique qui va donner lieu à une protéine qui aura une fonction qui plus tard pourra donner naissance effectivement à des cancers. Vous pouvez avoir des mutations qui sont acquises au cours du développement et bien entendu notre mode de vie peut influer dans une certaine mesure sur la manière dont ces mutations peuvent survenir.
Oui, donc là, on a tous en tête le tabac, enfin certaines habitudes ou certains comportements qui ont clairement... Mais alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour être très clair, quand on fume? Pourquoi le fait de fumer peut déclencher un cancer?
Alors déjà, dans les cigarettes, il y a un certain nombre de poisons qui sont nombreux, donc je ne les citerai pas tous, mais vous avez aussi la production de produits qui vont générer un stress oxydatif au niveau de vos cellules qui va s'accumuler. Certaines cellules peuvent les détoxifier correctement, d'autres un peu moins. Et ce stress oxydatif peut amener effectivement à oxyder des protéines qui vont perdre leur fonction, oxyder le génome, qui va aussi perdre la manière dont l'expression des gènes est régulée et qui peut effectivement aboutir à des dysfonctions de type cancer.
Alors, il y a encore aujourd'hui des zones d'ombre pour les chercheurs sur ces mécanismes qui sous-tendent donc l'apparition et le développement du cancer. On a l'impression qu'on a les grandes lignes du scénario, hein, la trame générale, mais que quand on rentre dans le détail, c'est pas si simple.
Non, ça reste très compliqué parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a jamais fumé qui va avoir un cancer du poumon, et vous pouvez avoir une autre personne qui va fumer toute sa vie qui n'en contractera jamais. Donc il y a effectivement des zones d'ombre qui nous restent à élucider, et comme les gens sont différents les uns des autres, vous allez avoir d'autres personnes qui ont une prédisposition pour des cancers, et même s'ils ont un rythme de vie qui est sain, ils vont quand même développer un cancer, et le cas inverse pour des personnes qui sont très stressées, mais qui ont la capacité de s'en sortir.
Alors il y a cette piste que l'on évoquait en introduction des cellules souches cancéreuses. Arrêtons-nous dessus, parce que là effectivement on sent que mieux comprendre ces cellules, c'est peut-être avoir un début de réponse, en tout cas pour certains cancers. Alors comment on les définit, ces cellules souches cancéreuses? Il y a déjà un paradoxe rien que dans l'appellation, parce que souvent, quand on parle de cellules souches, on est sur des thérapies, on a l'impression qu'on va régénérer un organe, réparer le corps, alors que là, on a une cellule souche cancéreuse.
Effectivement, donc vous le dites bien, ça illustre le problème sémantique qu'il existe autour de cette terminologie de cellules souches cancéreuses. Parce qu'on ne sait pas s'il s'agit d'une cellule souche saine qui a acquis des propriétés cancéreuses ou s'il s'agit d'une cellule cancéreuse qui, de par sa physiologie, a des caractéristiques réminiscentes de celles des cellules souches, à savoir la capacité de se détacher et de passer d'un état, je dirais, non différencié à un état différencié qui permet de générer donc un nouveau tissu, et en l'occurrence un tissu cancéreux.
Et on ne sait pas si c'est une cellule souche qui devient cancéreuse ou une cellule atteinte de tous ces dysfonctionnements cancéreux qui retombe un peu en enfance au stade de cellules souches.
Exactement.
Ça, déjà, on ne l'a pas compris.
Eh bien, disons qu'il peut y avoir les deux, d'où la sémantique, et donc il faut être clair. Je pense que les puristes ne sont pas d'accord avec cette terminologie des cellules souches cancéreuses, parce que ça prête toujours à confusion avec les cellules souches qui sont saines. Si bien que l'origine de cette terminologie cellule souche cancéreuse illustre plutôt la capacité d'une cellule à pouvoir se détacher pour pouvoir générer un tissu à un autre endroit. Donc on parle de capacité de renouvellement dans la tumeur.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle serait impliquée. C'est un peu les chefs d'orchestre, les tristes chefs d'orchestre de ces tumeurs et surtout des métastases, de la possibilité d'aller faire naître une tumeur un peu plus loin dans l'organisme.
Exactement. Donc ces cellules souches cancéreuses sont les moins différenciées de la tumeur, et c'est celles qui justement ont la capacité de générer une tumeur à partir d'une seule cellule. Donc si vous prenez une tumeur, et je pense que c'est une réponse à la question que vous m'avez posée plus tôt, ce qui est maintenant bien établi, c'est que les tumeurs sont hétérogènes, les tumeurs solides sont très hétérogènes, à savoir si vous avez imaginé 1 million de cellules dans la tumeur, il va vous être difficile d'identifier 2 cellules qui sont identiques. Et c'est cette hétérogénéité qui nous pose problème.
Ouais. On comprend que c'est compliqué parce qu'elles ne sont pas toutes semblables, ces cellules, mais réussir tout de même à s'attaquer à ces cellules souches cancéreuses, ce serait une bonne façon d'éradiquer le mal à la racine. Parce qu'elles sont aussi impliquées dans le cas des récidives. Quand la tumeur a été enlevée par radiation, par chimiothérapie, quand la tumeur se reforme, c'est souvent à cause de ces cellules souches cancéreuses.
Alors, vous avez raison, quelle que soit la manière dont on les nomme, que ce soit des cellules souches cancéreuses ou des cellules mésenchymateuses qui fait référence au développement embryonnaire ou des cellules qui sont résistantes aux chimiothérapies conventionnelles, ce qui est maintenant bien établi, c'est que dans les tumeurs, la plupart des tumeurs, il y a des cellules qui sont résistantes aux chimiothérapies conventionnelles. Et une des raisons qu'il explique, c'est que ce sont des cellules qui sont quiescentes en règle générale, c'est-à-dire qu'elles se divisent peu. Et qui ont des processus de réparation de l'ADN qui sont exacerbés. Si bien que les drogues que l'on utilise, que ce soit le Taxol qui cible les microtubules et la division cellulaire, ou
Les microtubules, on est quoi ? On est dans le squelette de la cellule,
exactement.
C'est ça hein ?
Le squelette de la cellule, donc qui est nécessaire pour la séparation des chromosomes pendant la division. Donc vous avez des drogues qui stabilisent ou déstabilisent ces microtubules. Donc plus vos cellules prolifèrent, plus elles sont susceptibles d'être sensibles à ces traitements. Ou alors vous allez avoir d'autres produits qui ciblent le génome, qu'on appelle génotoxique. Ça peut être les radiations, ça peut être la doxorubicine ou le cisplatine. Et bien entendu, on cible la prolifération cellulaire par la réplication de l'ADN. Plus les cellules se divisent et plus elles se divisent rapidement, plus elles sont sensibles à ces traitements. Donc en un premier temps, vous allez réduire la masse tumorale et vous avez ce qu'on appelle un bulk. Bulk de la tumeur.
Oui, alors là vous précisez, je ne vais pas vous laisser jargonner comme ça.
Donc vous avez imaginé que vous ayez deux grandes classes de cellules dans la tumeur. La cellule souche cancéreuse qui est au sommet de la hiérarchie et qui va permettre de maintenir la masse tumorale. Et vous avez les cellules de la masse qui se divisent. Donc la cellule souche cancéreuse ne se divise pas, donc elle sera pas, ou elle se divise moins, donc elle ne sera pas sensible au traitement conventionnel. Les autres, celles qui forment la masse de la tumeur, se divisent beaucoup plus rapidement, donc elles sont sensibles au traitement qu'on utilise. Qui explique entre autres les récidives.
Nous allons voir dans la suite de cette émission ce que votre approche chimique de ces mécanismes vous a permis de comprendre au sujet de ces cellules souches cancéreuses. Et puis vous répondrez bien sûr aux questions que les auditeurs de La Tête au Carré vous envoient sur franceinter.fr.
Chien, 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 chien.
C'était Cool Cat, Juliette Armanet sur France Inter dans La Tête au Carré.
Pour la première fois, nous avons pu visiter à Villejuif une réalisation de l'État dans le domaine de la lutte anti-cancer. Un institut dépendant du Centre National de la Recherche Scientifique, aidé par une association en faveur du développement de cet institut. Plus de 300 chercheurs et techniciens travaillent ici. Monsieur Pierre Grabard dirige l'Institut de Recherche Scientifique sur le Cancer.
Le laboratoire de biochimie analyse les constituants de la cellule vivante, par exemple les acides nucléiques. Une modification de leur structure pourrait expliquer la cancérisation.
Les méthodes immunologiques permettent de déceler les modifications des constituants des cellules cancéreuses. On peut ainsi espérer approcher le problème de la défense contre le cancer comme on le fait pour les maladies infectieuses.
En liaison avec cet institut, 8 laboratoires sont dirigés par le professeur Le Breton. Cette rapide enquête montre la complexité de la recherche, réclamant des équipes de spécialistes très différents et la part prise par cet institut aux recherches sur le cancer.
Nous étions en 1964, visite d'un laboratoire à Villejuif, qui était à la pointe hein, à l'époque. Le reportage s'intitulait « Vaincre le cancer ». Avec nous, autour de la table de La Tête au Carré, le chimiste Raphaël Rodriguez. Vos recherches portent justement sur le cancer, les mécanismes impliqués. Vous avez l'impression de vous inscrire dans la lignée de ces chercheurs qui travaillaient il y a plus de 50 ans déjà sur ces questions ?
J'espère l'être. Effectivement, vous faisiez référence à ce centre à Villejuif qui existe toujours, me semble-t-il, s'appelle l'Institut Gustave Roussy, qui est un des instituts qui est à la pointe en France, notamment en recherche clinique, dont certains experts, comme Guido Kremer, par exemple, sont à la pointe avec sa femme sur l'immunothérapie, qui a donné naissance à un prix Nobel. Et nous développons donc en parallèle avec Sébastien Migorena, l'Institut Curie, également ses immunothérapies avec le Centre d'immunothérapie. Donc il y a une approche peut-être un petit peu complémentaire à l'Institut qui est plus dans la recherche préclinique.
Ouais. Alors vous, justement, vous utilisez une approche peut-être un peu différente, novatrice, qui est à l'interface entre la chimie et la biologie. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de traduction pour dire le domaine dans lequel vous évoluez. Comment vous le traduisez ?
Vous faites référence donc à la chemical biology, qui est une discipline en soi qui est émergente, je dirais, depuis peu de temps en France et qui a pris naissance, je pense, aux États-Unis, à Boston, Harvard, dans les années 90. Pour lequel en France nous sommes désespérément en train de chercher un nom qui pourrait vraiment refléter ce que cette discipline représente. Ça peut être chémobiologie ou chimie biologique, mais ça reflète pas vraiment.
Vous la définiriez comment ? On n'est pas dans la biochimie, on n'est pas dans la biologie moléculaire. Qu'est-ce que vous faites ?
Disons que c'est la compréhension de la biologie à l'échelle moléculaire et à l'échelle atomique qui passe par l'utilisation et le développement d'outils chimiques.
Oui, vous êtes de formation chimiste et vous êtes, disons-le, formé sur le tas à la biologie. Une fois que vous aviez fait votre thèse, votre post-doctorat, vous êtes mis à la biologie. C'est un chimiste qui s'intéresse sur le tard à la biologie.
Effectivement, c'était un déchaînement manquant. Je dois rappeler que j'ai quand même fait une année de médecine, donc je ferai un clin d'œil à mon frère qui a eu le courage
d'aller jusqu'au bout,
de continuer dans ce sens, effectivement. Mais je me suis rendu compte assez tôt en fait que quand on était chimiste, on pouvait avoir un impact sur la santé qui pouvait être peut-être supérieur à celui d'un médecin si on arrivait à mettre au point effectivement un traitement pour une pathologie en particulier. Et dans ce cadre-là, bien entendu, faire des molécules, c'est pas suffisant. Il faut savoir ce que font ces molécules dans la cellule et ensuite pouvoir se positionner avec des cliniciens pour savoir si on maîtrise vraiment l'essence des problèmes associés à ces pathologies.
Alors, vous avez à peine 40 ans, hein, vous les avez eus, vos 40 ans, je crois, samedi dernier, donc c'est tout récent, et vous avez déjà un parcours impressionnant. Vos recherches vous valent les honneurs du monde entier, hein, Raphaël Rodriguez, n'ayons pas peur de le dire. La Société Royale de Chimie de Londres vous a nommé récemment fellow, qu'on pourrait traduire par compagnon. Alors, pour vous qui avez effectué une partie de votre carrière de l'autre côté de la Manche, hein, vous avez été à Oxford, à Cambridge, ce titre doit vous honorer tout particulièrement.
Alors ce titre m'honore, mais avant de parler de ce titre, je voudrais en parler d'un autre titre qui n'est pas un titre, en fait, qui est un trophée, le trophée K2 qui m'a été remis ici à Paris, qui m'a permis de rencontrer des gens dans ce cadre absolument formidable, donc je leur fais un clin d'œil. Maintenant, pour revenir effectivement à la Fellow of the Royal Society of Chemistry, c'était important pour moi parce que ça reflète, je dirais, la culture britannique que j'ai pu acquérir pendant presque une décennie. Et qui a vraiment été basé sur l'évaluation de mes travaux effectués en France et non pas en Angleterre, ce qui montre que le travail de mon équipe a une visibilité au moins européenne, quand j'ai reçu effectivement cette édition.
Alors, européenne, voire allez, n'ayons pas peur des mots, mondiale, puisqu'en août dernier, vous avez reçu le Tétraédron. Alors, c'est un prix international dédié aux chimistes des moins de 40 ans pour récompenser leur exceptionnelle créativité, hein, je cite les termes, moins de 40 ans. Hein, c'est... Souvent, on dit, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que ce prix ouvre la porte au futur prix Nobel de chimie. On arrive à continuer à faire de la recherche avec la tête froide quand on est comme ça, couvert de laurier à même pas 40 ans.
Et vous faites bien de me rappeler à l'ordre,
oui,
parce
s'il
qu'effectivement,
vous plaît.
Effectivement, avoir des prix, ça peut très rapidement nous faire perdre le point focal qui est notre métier. C'est important, dans une certaine mesure, de recevoir des prix. Ça permet de quand même de garder confiance, parce que la recherche, c'est beaucoup d'échecs, et quand on ne fait qu'échouer, finalement, quand on a un résultat, on ne sait pas si le résultat est substantiel ou pas. Et avoir un prix, cette reconnaissance, ça permet effectivement de confirmer qu'on est sur une voie qui est intéressante. Pour en revenir à ce fameux prix Tétraédron, je dois quand même rectifier le fait qu'il y a d'autres prix qui sont plus prestigieux que celui-ci, comme le prix Nobel, par exemple.
Oui, évidemment.
Le prix Nobel étant quand même assez généraliste, ça ne concerne pas que la chimie organique, alors que le prix Tétraédron, c'est vraiment la chimie organique, dont le Tétraédron, c'est le Tétraèdre, c'est le méthane, comme me l'a dit au téléphone Cédric Villani il n'y a pas très longtemps. Donc le méthane qui est la molécule organique la plus petite, qui a donc la forme d'un tétraèdre. Et c'est un prix qui était intéressant pour moi, parce que les deux personnes qui ont créé ce prix, c'est un prix qui est issu d'un journal scientifique qui s'appelle le Tétraédron, qui a été créé par Woodward et Robinson, qui sont, à mon sens, les deux plus grands chimistes organiciens de l'histoire. Mmh. Et donc, être associé à ces personnes, c'est du bonheur pour moi.
Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, quand même, vos recherches semblent intéresser vos pairs et à travers toute la planète. On l'a dit, on parlait de ces cellules souches cancéreuses découvertes assez récemment, qui semblent jouer un rôle primordial dans le développement des tumeurs et la production de métastases. Le Graal, ce serait de découvrir un moyen de détruire spécifiquement ces cellules souches cancéreuses. Vous êtes sur des pistes intéressantes avec votre approche à l'interface de la chimie et de la biologie.
Alors, je dirais que nous avons une approche, je dirais, qui est un petit peu orthogonale, effectivement, parce qu'à l'Institut Curie, qui est quand même un institut qui a été fondé par des chimistes à la base, les chimistes ont une approche qui est différente, parce que peut-être que nous sommes en moins nombreux. Et donc, je dois rendre hommage à la personne qui a développé des modèles, donc Alain Puisieux, qui a développé des modèles qui m'ont permis de faire le travail que j'ai fait avec Patrice Godogno. Donc, la difficulté avec les cellules cancéreuses souches, c'est que dans la tumeur, elles sont quand même pas majoritaires, et que lorsqu'on les isole des tumeurs primaires et qu'on les essaie de les mettre en culture, elles perdent leur propriété souche. Soit on n'arrive tout simplement pas à les mettre en culture, si bien qu'il est difficile d'identifier des drogues qui permettent de cibler ces populations. Mmh. Et donc Alain Puisieux a développé un modèle stable qui récapitule certaines propriétés des cellules cancéreuses souches qui permettent effectivement de faire de la mécanistique, c'est-à-dire de développer des petites molécules et de voir si elles sont toxiques spécifiquement sur ces populations.
Ouais. Et c'est ça, il faudrait trouver des molécules spécifiquement toxiques pour s'attaquer uniquement à ces cellules qui sont un peu les chefs d'orchestre de nos tumeurs.
Exactement, alors je dirais qu'on est encore en amont, parce que dire à quelqu'un qu'il va falloir lui donner différents types de traitements, parce qu'il n'a pas une pathologie, il en a plusieurs, il a des cellules qui prolifèrent rapidement, il a des cellules qui donnent genèse à des métastases, c'est pas conceptuellement facile à absorber. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir une stratégie qui serait double, avoir effectivement un type de drogue qui va cibler les cellules qui ont des propriétés souches, et d'autres qui ciblent et qui existent déjà, les cellules qui se divisent rapidement.
Nous allons évoquer dans la suite de cette émission les nouvelles thérapies prometteuses pour lutter contre le cancer, les cancers. Et puis vous répondrez, Raphaël Rodriguez, aux nombreuses questions d'auditeurs qui sont arrivées justement au sujet de ces nouvelles thérapies. Don't beat the girl out of my boy, c'était Anna Calvi sur France Inter.
Allô ?
Allô maman, c'est moi.
Oui.
Tu sais, je pourrais pas venir dîner ce soir.
Oh bah qu'est-ce qui t'arrive mon chéri ?
Non, c'est rien, mais j'ai un cancer.
Ah bon ? On se verra dimanche.
Bisous maman.
Bisous.
Raphaël Rodriguez, chimiste au CNRS et à l'Institut Curie. Vous nous avez parlé de vos recherches novatrices sur la biologie des cellules cancéreuses. Pensez-vous qu'un jour, les cancers deviendront des maladies bénignes, comme l'imaginait cette campagne pour soutenir la recherche contre le cancer ?
Je pense qu'en effet, il y a des chances pour que certains cancers puissent devenir des maladies bénignes, effectivement. J'ai cet espoir.
Je pense vous que dites les... certains cancers. Déjà, il y a cette prudence. On sent que tous ne seront pas guérissables de la même manière.
Disons que j'espère pouvoir le voir de mon vivant, ce qui n'est pas à gagner, parce qu'il y a certains cancers sur lesquels les progrès, aucun progrès n'a été fait. Je me réjouis de voir les progrès effectivement de l'immunothérapie qui est très prometteuse, mmh. où on voit certaines limites, mais ce sont des limites simplement qui sont liées simplement à la jeunesse de ce type d'approche.
On va y revenir à l'immunothérapie, mais avant quelques questions d'auditeurs. Patrice, n'y aurait-il pas un intérêt pour les chercheurs à trouver un virus ou une bactérie qui s'attaque justement aux cellules souches cancéreuses ? Voilà une très bonne idée de la part de Patrice.
Et c'est une très bonne idée. Je pense que des gens, bien entendu, ont déjà essayé un certain nombre de stratégies, utiliser effectivement les biomolécules qui sont déjà disponibles, que ce soit les virus ou des bactéries. Bien entendu, on a toujours un principe de précaution, à savoir est-ce qu'on maîtrise vraiment ces organismes, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour l'homme.
Ouais.
Voilà, ça s'éloigne un petit peu de...
Il faut être sûr d'avoir un virus qui ne va poser problème et ne s'attaquer que aux cellules. Il faut rappeler que ces cellules, au départ, elles viennent de notre propre corps. Elles ressemblent beaucoup à toutes les autres cellules saines que nous portons et qui nous constituent.
C'est une difficulté.
Ouais. Blaise vous demande, dans l'émergence des tumeurs, quelle part peut-on attribuer aux infections virales et à l'activation d'oncogènes suite à l'intégration du génome viral dans le génome des cellules contaminées ? C'est vrai qu'il y a des virus qui, en infectant nos cellules, peuvent provoquer des cancers. Ce sont des cas fréquents, ça ?
Il y a certains cas. Il y a certains cas. Ça existe, c'est bien caractérisé.
Oui. Vous avez des exemples de cancers ?
Le papillomavirus, je dirais, ouais. Effectivement. Oui.
Pour le col de l'utérus ?
Je ne saurais pas vous répondre.
D'accord.
Ça sort un peu de mon cadre d'expertise.
Très bien. Allez, je vais prendre votre cadre d'expertise pour parler. Alors, on l'a tous entendu, le dernier prix Nobel de médecine est venu récompenser les recherches dans le domaine de l'immunothérapie. On l'a déjà rapidement évoqué avec vous. Un point sur ces prix Nobel que faisait Daniel Messager sur notre antenne.
Les lauréats du Nobel ont ouvert une nouvelle porte car lors d'un cancer, les cellules du système immunitaire ne parviennent pas à le protéger des agressions. Le professeur Caroline Robert est cancérologue à l'Institut Gustave Roussy. Elle a été l'une des premières à en faire bénéficier ses malades dans le traitement du mélanome.
Ces deux chercheurs ont démontré qu'on pouvait activer le système immunitaire d'une façon tout à fait originale par rapport à ce qu'on essayait de faire avant. Au lieu d'essayer de pousser tous les signaux positifs, en fait, ils ont pensé à bloquer des freins de l'activation du système immunitaire, des signaux négatifs.
Lâcher les freins et à la fois appuyer sur les bonnes pédales d'accélération du système immunitaire, selon l'expression même du jury du Nobel de médecine. Le professeur Caroline Robert a vécu auprès de ses malades les premiers succès de l'immunothérapie.
C'est une révolution. C'était un premier pas extrêmement important. Ce qui est remarquable, c'est que dans un certain nombre de cas, on obtient des rémissions complètes et on peut même arrêter le traitement. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant. Ouais.
Raphaël Rodriguez, il y a clairement un avant et un après immunothérapie dans le domaine de la lutte contre le cancer. En tout cas, là encore, pour certains cancers, parce qu'ils ne sont pas tous pareils.
Bien, effectivement, l'immunothérapie, c'est une avancée significative et ça donne beaucoup d'espoir. Mmh. Donc le principe, effectivement, c'est que les cellules cancéreuses ont la capacité de s'échapper à la surveillance, je dirais, du système immunitaire. Et donc l'immunothérapie consiste à effectivement à réveiller le système immunitaire qui permet donc à notre système de se débarrasser de ces cellules cancéreuses.
Alors à ce propos, Bernard vous demande, on parle beaucoup du micro-environnement cellulaire et de l'évasion des cellules cancéreuses par rapport au système immunitaire. Que sait-on des molécules impliquées dans cette immuno-évasion ?
Alors, encore une fois, l'immunothérapie n'est pas mon champ d'expertise. Donc là, il faudrait discuter avec Sébastien Migorena et son unité. Maintenant, ce que vous définissez comme micro-environnement tumoral, effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas qu'un type de cellule dans la tumeur, il y a plusieurs types de cellules et ces cellules sont en synergie entre elles. Certaines cellules produisent des molécules qui vont être utilisées ou stimuler d'autres cellules dans la tumeur et c'est le cas justement du lien qu'il peut y avoir entre les cellules souches cancéreuses et les cellules de la masse tumorale.
Ouais. Thierry vous demande, y a-t-il des cancers vaincus uniquement par notre système immunitaire? Si je comprends bien sa question, ce seraient des cancers dont nous n'entendons même pas parler et dont notre système immunitaire nous débarrasse avant même qu'il nous ait posé problème?
Alors, je n'ai pas de réponse précise à votre question, mais je peux vous dire avec certitude, par contre, que dans le cadre de l'immunothérapie, des traitements qui sont développés, effectivement, il y a certains cancers qui, lorsqu'on réveille ou on stimule notre système immunitaire, on peut envisager des rémissions globales.
Alors, il y a aussi tout ce qu'on nous dit de faire ou de ne pas faire pour essayer de rester en bonne santé le plus longtemps. Et à ce sujet, il y a Sébastien qui vous dit, il y a quelques années, Arte avait diffusé une émission sur le cancer. Un chercheur italien travaillant à San Francisco démontrait que le jeûne avait un effet favorable sur les traitements chimiothérapiques par la mise en place d'une protection des cellules. Qu'en pensez-vous?
Je pense que c'est très intéressant. Alors, je n'ai pas de réponse à vous donner parce que je n'ai pas d'études qui prouvent effectivement que les gens qui sont atteints d'un cancer ou d'un autre cancer en faisant un jeûne, bien entendu, ont plus de chances de mieux s'en sortir. Mais de toute évidence, il y a des champs de recherche qui sont émergents, comme le métabolisme, qui montre effectivement que certaines cellules cancéreuses ont besoin d'avoir un métabolisme particulier afin de produire des métabolites qui leur sont utiles pour maintenir cette homéostasie qui est importante pour rester ou pour être ou pour devenir des cellules cancéreuses. Mmh. Et donc là, ça tombe un petit peu dans mon champ d'expertise parce que c'est ce que nous sommes en train de montrer au laboratoire dans le cadre de l'homéostasie du fer qui fait qu'effectivement, lorsqu'on nourrit des cellules cancéreuses qui n'ont pas de propriétés souches, a priori, quand on les complémente avec du fer, elles peuvent effectivement acquérir ces propriétés souches. Et donc, votre alimentation, on peut envisager qu'elle est directement un impact sur la population d'un cancer.
Ouais. Pour revenir sur les traitements innovants que l'on a évoqués, hein, ceux qui pourraient un jour concerner ces cellules souches cancéreuses ou l'immunothérapie que l'on vient d'évoquer, ils sont souvent, ces traitements, quand ils apparaissent, très chers. Est-ce que ça veut dire qu'ils le seront toujours? Est-ce que ça restera un frein? Comment il faut le percevoir, ça? Le fait que quand on avance, on se dit tout le monde ne pourra pas en bénéficier parce que ça coûte de plus en plus cher de traiter.
Alors je pense que c'est pas spécifique à l'immunothérapie, je pense que c'est le cas de beaucoup de traitements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement il y a un coût du développement qui est absolument énorme et les gens qui cherchent à développer ces produits, bien entendu, il faut quand même qu'ils rentrent dans leurs frais et la plupart du temps, ils n'utilisent pas cet argent pour financer le traitement, mais ils vont utiliser cet argent aussi pour développer d'autres traitements et donc c'est un petit peu une sorte de vase communicant où vendre un traitement permettra d'en développer un autre. Donc on peut envisager dans tous les cas que les traitements futurs seront bien moins chers que les traitements actuels, bien entendu.
Pour terminer, un mot, hein, Raphaël Rodriguez. Je l'ai dit, vous avez fait une bonne partie de votre carrière, de votre parcours en Angleterre. Maintenant, vous êtes revenu en France. Vous avez pu comparer les deux systèmes de recherche qui sont très différents. Alors, bilan des courses.
Bilan des courses. Effectivement, j'ai décidé en 2012 de rentrer au pays parce que j'ai grandi ici et j'ai pu avoir accès donc à la médecine, à l'éducation à moindre coût. Et je pense que c'est une des puissances de notre système, de notre société en France, d'avoir un service public qui fonctionne bien. Bien entendu, ça a des avantages et des inconvénients. Je trouve qu'il y a plus d'inertie, effectivement, en France. Je trouve qu'il y a des lourdeurs administratives qui sont souvent difficiles et qui nous font perdre énormément de temps sur notre temps de recherche, où souvent on passe plus de temps à faire de l'administratif que de la recherche.
C'est plus souple en Angleterre de ce point de vue-là?
C'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus souple. C'est aussi beaucoup plus élitiste. Et bien entendu, il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup moins de chercheurs, je dirais, permanents. Donc, un des avantages du CNRS, par exemple, c'est d'avoir des gens qui sont permanents dans une équipe qui permet de pérenniser sur la durée des recherches. Et ça n'existe pas vraiment dans d'autres pays que le nôtre. Donc, ce sont les avantages.
Merci à vous, Raphaël Rodriguez. Et on reste dans les questions de santé. C'est l'heure du docteur.
France Inter, santé polémique.
avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Daniel.
Votre polémique du jour porte sur la stérilisation des sondes d'échographie.
Oui Daniel, savez-vous ce qu'est le disease mongering?
Non, je mentirais en disant que oui, mais vous allez nous le dire.
C'est une stratégie commerciale de l'industrie pharmaceutique qui consiste à gonfler artificiellement la fréquence ou la gravité d'une maladie pour augmenter ses ventes. Mot à mot, ça donnerait façonnage de maladie, mais c'est l'expression anglaise qui prévaut en France, alors que c'est notre docteur Knock national qui l'a inventé sous la plume de Jules Romain. Cette pratique ne touche pas que les médicaments, elle concerne désormais tout ce qui est lié à la santé. Nous en avons eu un exemple la semaine dernière avec le retour du mythe des sondes d'échographie qui transmettraient des virus.
Oui, j'ai vu ça, il existerait un défaut d'hygiène d'après certains spécialistes.
Ouais, enfin en tout cas, c'est le message qu'ils tentent de faire passer dans un rapport dont tous les journalistes ont parlé mais que personne n'a pu lire. D'après eux, la désinfection des sondes d'échographie endocavitaires, c'est-à-dire introduites dans le vagin ou dans le rectum, serait insuffisante pour éviter les contaminations d'un patient à un autre.
Et ça, c'est pas vrai alors?
Bah non, heureusement. La sonde est protégée par une gaine élastique, une sorte de préservatif, mais en plus solide. Elle est changée, bien sûr, entre chaque patient, et la sonde est également nettoyée par précaution avec une lingette antiseptique. Le médecin doit également changer de gants à chaque fois. Et donc, pour qu'une contamination ait lieu, il faudrait que des virus présents chez un patient traversent la gaine et contaminent la sonde. Ces virus doivent ensuite survivre à la lingette antiseptique, puis retraverser dans l'autre sens la nouvelle gaine pour contaminer le patient suivant. Alors, c'est absurde, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon les préservatifs ne nous protégeraient pas du sida et les chirurgiens ne pourraient plus opérer sans risquer de contaminer et d'être contaminés malgré leurs gants. En fait, tout ça est purement théorique, parce qu'en plus, il n'existe pas de contamination avérée. Et lorsque l'on retrouve quelques virus sur une gaine propre, bah, c'est généralement parce que le médecin n'a pas bien suivi le protocole actuel, notamment lorsqu'il a changé ses gants. Et donc, utiliser une désinfection plus poussée de la sonde n'y changerait strictement rien.
Mais alors, qui a intérêt à nous faire peur avec ça, Dominique?
Bah, je peux pas porter d'accusation sans preuve, hein, mais la même campagne a eu lieu en 2013, et à l'époque, elle se fondait sur une étude financée par la société Germitech, qui, par le plus grand des hasards, commercialise un stérilisateur de sondes à ultraviolets censé résoudre le problème.
Ah oui, voilà, on est sur une piste.
Alors, oui. Et même si la ficelle est un peu grosse, même si c'est un remake de 2013, presque tous les médias sont tombés dans le panneau et ont répondu une peur injustifiée. Donc, non, il n'existe pas de défaut d'hygiène pour les échographies internes réalisées en respectant les protocoles actuels, comme je l'ai pourtant lu dans certains titres. Et donc, altérer, sans raison valable, la confiance des patients dans un examen important n'est pas seulement idiot, c'est grave et même dangereux. Et dans la catégorie fake news, celles qui impactent la santé sont les plus graves et elles n'émanent pas toujours de complotistes incultes.
Merci Dominique et à la semaine prochaine. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, les survivants de la Cordillère des Andes.